Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, l'Église aujourd'hui nous donne pour ce 20e dimanche après la Pentecôte un texte très intéressant, surtout dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5e. Et je voudrais partir de ce texte de saint Paul pour nous aider à préparer un petit peu ces trois très grandes fêtes qui arrivent maintenant, parmi les plus grandes fêtes de l'année, qui vont arriver coup sur coup. Dimanche prochain, dernier dimanche du mois d'octobre, la fête du Christ-Roi. Puis le 1er novembre, la fête de tous les saints. Et enfin le 2 novembre, le jour des morts. Il faut nous préparer un petit peu spirituellement parlant à ces grandes fêtes. Que nous dit saint Paul ? Ayez soin, dit-il, mes frères, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des hommes sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Remplissez-vous du Saint-Esprit, entretenez-vous de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant du fond du cœur le Seigneur en rendant grâce en tout temps et pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. La partie qui me semble importante dans ce texte, c'est la phrase qui dit « Rachetez le temps comme des hommes sages, car les jours sont mauvais ». Première question qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut... La plupart des gens se posent cette question souvent, est-ce qu'on peut racheter le temps? Est-ce qu'on peut racheter le passé? Directement, est-ce qu'on peut racheter le temps perdu? Surtout si les jours sont mauvais, comme nous dit saint Paul. Eh bien, la réponse est positive. Dieu, dans sa miséricorde infinie, Dieu, dans sa bonté extraordinaire, nous permet de racheter le temps perdu. Mais attention, pour racheter le temps perdu, il faut être dans le temps. Si nous ne sommes plus dans le temps, si nous avons sauté la barrière du temps et nous sommes passés dans l'éternité, il n'est plus possible de racheter le temps perdu, le temps passé. Donc pour nous, aujourd'hui, nous sommes vivants et donc nous pouvons racheter le temps. Il y a trois conditions essentielles que nous devons posséder, qui nous permettent de racheter le temps passé, c'est-à-dire de racheter les erreurs du passé, de racheter les péchés du passé, de racheter tous les égoïsmes du passé, le temps fondamental, le temps énorme que j'ai pu perdre à m'occuper de moi-même de façon trop matérielle ou de m'occuper de mon âme. Il y a trois conditions pour pouvoir racheter le temps du passé, racheter les erreurs passées. Première condition, encore une fois, c'est d'être dans le temps. Deuxième condition, c'est d'avoir l'usage de notre liberté. Troisième condition, d'avoir les grâces de Dieu, la grâce du bon Dieu. Parce qu'on ne peut pas racheter le temps du passé, on ne peut pas racheter les erreurs du passé sans la grâce du bon Dieu, c'est impossible. Et Dieu ne refuse jamais sa grâce à qui la lui demande avec humilité. Mais encore une fois, pour changer, pour rattraper les erreurs du passé, pour changer de comportement, il faut être dans le temps. Parce que si on n'est plus dans le temps, il n'y a plus de mouvement possible. Le mouvement, c'est quoi? C'est le passage de la puissance à l'acte, c'est le passage d'une chose à une autre, d'une situation à une autre situation. Il faut du temps pour ça. Si on n'est pas dans le temps, on ne peut pas changer. C'est pour cela que lorsque nous avons passé la barrière du temps, et que nous sommes passés dans l'éternité, le jour de notre mort, c'est ça, quand il y a séparation entre le corps et l'âme, en un quart de seconde, en un clin d'œil, nous passons du temps à l'éternité. L'éternité, c'est quoi? Ben, c'est précisément l'absence de temps. Une fois qu'on est dans l'éternité, on est en quelque sorte figé dans une situation que nous ne pouvons plus changer. Et donc, il faut utiliser ce temps. Le bon Dieu nous dit, par saint Paul, que nous pouvons racheter le temps passé, mais il ne nous dit pas que nous pourrons racheter ce temps passé pendant encore des années et des années et des années. Beaucoup de gens interprètent de travers ce texte en disant ben, « Puisque j'ai le temps de rattraper le temps passé, très bien, je ferai ça juste avant de mourir. » Non, parce que le bon Dieu nous a prévenu qu'il viendrait comme un voleur. au milieu de la nuit, alors que nous ne l'attendons pas, il viendra, il frappera à notre porte. Ce sera la séparation entre notre corps et notre âme, le jour de notre mort. Et ce jour-là, le bon Dieu nous apparaîtra, nous dira : rends compte de ta gestion. Qu'as-tu fait des biens que je t'ai donnés ? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné ? N'oublions pas qu'une des plus grandes grâces que le bon Dieu nous a données, c'est le temps, d'avoir le temps. Combien de gens vont arriver le jour de leur mort et supplieront le bon Dieu de leur donner encore un petit peu de temps. Oh mon Dieu, donnez-moi encore 2-3 minutes pour que j'ai le temps de faire une bonne confession, pour que j'ai le temps de remettre les pendules à l'heure, que j'ai le temps de remettre les barres sur les T, les points sur les I, comme on dit vulgairement. Et le bon Dieu nous dira, mais non, je t'ai donné le temps avant, tu l'as eu pendant 50, 60, 70, 80, 90 ans ce temps, maintenant c'est fini, il n'y a plus de temps, tu passes dans l'éternité. Et à partir du moment, encore une fois, on passe dans l'éternité, il n'y a plus de temps, plus de grâce, plus de liberté, plus d'usage de notre liberté. Donc nous ne pouvons plus changer de situation spirituellement parlant une fois que nous sommes hors du temps. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, il nous faut utiliser le temps que le bon Dieu nous donne. Parce que nous ne savons pas, encore une fois, si ce temps qui nous est donné nous sera donné pour une longue période de temps. Mais rappelez-vous, les vierges folles, elles étaient avec les vierges sages en train d'attendre devant la maison de l'époux, attendre qu'il arrive, et puis elles ont dû partir pour aller chercher de l'huile pour leur lampe, parce qu'elles n'avaient pas pris justement, bien utilisé leur temps passé pour alimenter leur lampe et prendre des réserves d'huile. Alors elles sont obligées de partir, et pendant le temps où elles n'étaient pas là, précisément, l'époux est venu, les vierges sages sont rentrées avec l'époux dans la maison, et les vierges folles qui sont arrivées trop tard, lorsque la porte était déjà fermée, ont dû rester à la porte, sur le seuil de la porte. Eh bien, c'est la même chose pour nous, eh bien, chers amis. Donc, attention à cette phrase qui est tellement importante. Rachetons le temps, utilisons le temps, la liberté et les grâces que le bon Dieu nous donne. Comme le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à qui la lui demande avec humilité, si je sais utiliser le temps actuel que j'ai encore actuellement aujourd'hui, eh bien, je peux justement changer. Le bon Dieu me donnera ses grâces pour changer d'état de vie, pour changer de situation pécamineuse, de passer d'une situation mauvaise à une situation qui est meilleure. Il me donnera cette grâce, à condition que j'utilise le temps maintenant. Encore une fois, lorsqu'on se couche le soir, il faut se dire, et apprendre à nos enfants aussi à prier comme ça, « Mon Dieu, vous m'avez donné une bonne journée aujourd'hui, merci beaucoup. Est-ce que je serai là encore demain matin? Je ne suis pas sûr. Gardez-moi entre vos mains cette nuit, et j'espère être là encore demain matin, mais peut-être que je ne serai plus. Combien de gens se sont endormis pendant leur sommeil ?» Encore eu un cas il n'y a pas très longtemps, un jeune homme qui avait fait plusieurs retraites avec moi, que je connaissais bien, eh bien, le lendemain matin, et sa mère était allée voir parce qu'il ne bougeait pas de son lit, et puis le corps était froid, il était mort pendant la nuit. Et donc, préparons-nous, mes bien chers frères. Le bon Dieu nous demande de nous préparer précisément en pensant à ce qu'on appelle les fins dernières. La fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, et tout le mois de novembre, sont des mois qui sont traditionnellement utilisés par l'Église pour nous obliger, nous les fidèles, à penser aux fins dernières. Fin dernière, c'est ce qui arrive à la fin, justement. Au moment où on arrive à la fin du temps, où on passe du temps à l'éternité. Il y a la mort, il y a les jugements, jugement particulier, jugement général, il y a le purgatoire, il y a le ciel, et malheureusement, il y a l'enfer. Il y a même un autre endroit, un peu une exception, les limbes, pour les enfants morts sans baptême. Ou les adultes morts sans baptême, mais qui n'ont jamais eu l'usage de la raison. Alors, ces fins dernières sont très importantes, parce que l'arrivée de la mort entraîne le jugement particulier, et va nous faire changer d'état dans l'Église, même si je meurs en état de grâce. Si je meurs en état de grâce, mais que j'ai encore des péchés à me faire pardonner, des péchés véniels, les péchés mortels ont été remis par le sacrement de pénitence pendant la vie, mais si j'ai encore des péchés véniels à payer, ou que je n'ai pas eu le temps de faire suffisamment de pénitence ici-bas sur la terre, eh bien je vais devoir passer par un temps purgatoire. Donc je vais passer de soldat de l'église militante. L'église militante, c'est quoi? L'église militante, c'est l'église d'ici-bas, l'église des soldats vivant ici-bas dans ce monde. Miles en latin, ça veut dire le soldat. L'église militante, c'est donc l'église des soldats qui sont en combat ici-bas sur la terre. Notre vie est un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. Combat spirituel pour nous permettre, qui nous permet justement de rester dans la bonne armée, l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. L'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ qui est sa croix, et les trois mots d'ordre, pauvreté, chasteté, obéissance. Et donc il y a un combat terrible pendant toute cette vie ici-bas pour ne pas être tenté et refuser d'aller dans l'autre camp, le combat du démon avec l'étendard du démon, qui est l'étendard de la révolution, avec les trois mots d'ordre, à savoir liberté, égalité, fraternité. Il y a donc dans l'Église trois parties, nous enseigne le catéchisme catholique. L'Église militante, l'Église d'ici-bas, l'Église souffrante, c'est l'Église du purgatoire, l'Église de purification. Et enfin, l'Église triomphante ou l'Église glorieuse, c'est l'Église du paradis. Et donc, il va falloir passer, l'idéal évidemment, ce serait de passer de l'Église militante, ici-bas, à l'Église triomphante, au ciel. Mais la plupart des gens passent par le purgatoire. La plupart des catholiques qui meurent en état de grâce passent par le purgatoire. Car il faut être parfaitement pur pour pouvoir passer à l'Église triomphante. C'est Saint Curé d'Arles, je crois, qui avait vu dans une vision l'évêque d'Arles, Saint Saturnin, qui avait passé, disait-il, un petit temps en purgatoire parce qu'il avait dit le matin, l'après-midi, le soir plutôt, des prières qu'il aurait dû dire le matin. Voilà. Et tout ce qu'il avait fait, bien, il a passé un temps en purgatoire pour cela. Et donc, nous allons passer de l'Église militante à l'Église souffrante, à l'Église glorieuse ou triomphante. De la terre d'ici-bas au purgatoire, à l'Église triomphante. Question qui nous est souvent posée, mais mon Dieu, monsieur l'abbé, l'enfer, ça fait partie de l'Église souffrante? Non. L'enfer n'est pas une partie de l'Église. Lorsque nous tombons en enfer, malheureusement, lorsqu'une âme, malheureusement, tombe en enfer, elle sort de l'Église. En quelque sorte, elle sort d'une certaine façon de la juridiction du bon Dieu. Nous mourons comme ennemis de Dieu, et alors en ce moment, il n'y a plus de place pour nous dans l'Église, ni dans l'Église souffrante, ni dans l'Église triomphante. C'est le drame de l'enfer. L'enfer, c'est ça. C'est ça la peine du damné. La peine du damné, c'est la peine par laquelle je reconnais, je réalise, je comprends que je n'ai plus de place. Il n'y a plus de place pour moi, plus de place pour moi au ciel. Je vais voir le jour de ma mort, d'une certaine façon, la place que le bon Dieu m'avait réservée au ciel, je verrai le nom sur le siège de gloire qui m'était réservé au ciel, et puis, malheureusement, la porte est fermée, et je n'avais pas préparé mon huile, je suis comme une vierge folle, je n'avais pas préparé l'huile, le bon Dieu est venu sans prévenir, et je n'étais pas prêt à le recevoir. Alors, mes bien chers frères, il nous faut méditer sur ces choses-là. Méditer sur cette phrase, encore une fois, de Saint Paul, « Comme des hommes sages, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. » Les jours sont mauvais, les jours deviennent de plus en plus courts, mes bien chers frères. L'opposition à notre Seigneur Jésus-Christ, l'opposition à son Église catholique devient de plus en plus forte dans le monde moderne. Eh bien, il va falloir que nous, les catholiques, nous soyons de plus en plus forts avec la grâce du bon Dieu, avec l'usage de notre liberté et l'usage du temps que le bon Dieu nous donne dans sa miséricorde, de faire que nous soyons de plus en plus forts pour rester, maintenir le cap, rester dans le bon camp, rester dans l'Église militante, pour espérer un jour passer dans l'Église triomphante, après un passage encore une fois obligatoire dans l'Église souffrante, dans bien des cas. Il est possible certainement qu'il y ait eu des saints qui ont dû passer directement de l'Église militante à l'Église triomphante, par exemple les martyrs. Tous les martyrs des premiers temps de la chrétienté sont passés directement de l'estomac du gosier du lion qui venait de les dévorer tout vivant au ciel. Hein. C'est certain. De même, tous les enfants qui sont morts après le baptême sont passés directement de l'Église militante à l'Église triomphante. Mais en même temps, il faut voir que le bon Dieu demande beaucoup. Alors, cette considération justement de ce temps qui passe et qui n'est pas toujours rattrapable, eh bien, ce temps qui passe et qui n'est pas toujours rattrapable va nous aide, si vous voulez, à méditer donc ces trois grandes fêtes qui arrivent, le Christ-Roi, le jour des morts et la Toussaint. Pourquoi ? Parce que la fête du Christ-Roi, instituée par le pape Pie XI, on verra ça dimanche prochain, c'est le dernier dimanche d'octobre qui est la fête du Christ-Roi. La fête du Christ-Roi, c'est la fête de l'Église militante. Ici-bas, nous devons suivre, respecter, aimer, adorer le roi des rois, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église souffrante sera commémorée au jour des morts, le 2 novembre. 2 novembre, jour des morts, ce jour-là, nous allons prier pour toutes les âmes du purgatoire. Et enfin, la Toussaint, le 1er novembre, va correspondre à l'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église du ciel. Donc il nous faut maintenir notre regard spirituel sur l'Église du ciel, parce que c'est là où le bon Dieu nous attend. Il faut dans notre méditation déjà rechercher peut-être le siège qui nous a été réservé au ciel. De même peut-être, d'après certains saints, il y a aussi un siège qui nous est réservé en enfer par le démon. Et ça va dépendre de moi, avec la grâce du bon Dieu, d'utiliser le siège du démon, le siège du paradis. C'est sainte Thérèse d'Avila qui, dans une vision fameuse, au début de sa vie religieuse, alors qu'elle était un petit peu mondaine, au début de sa vie religieuse, donc, le bon Dieu lui a dit, lui est apparu, lui a dit: Thérèse, je veux vous montrer l'endroit que j'ai réservé pour vous, qui a été réservé pour vous en enfer, au cas où vous ne deveniez pas une grande sainte. Elle dit: suis notre Seigneur. Elle s'est retrouvée pendant un temps très court, mais qui lui a paru très long, enfermée dans une espèce de boyau très étroit en enfer, avec les souffrances épouvantables des damnés, pendant un temps extrêmement court. Et lorsqu'elle est sortie de cette épreuve terrible, elle a compris. Elle a changé totalement de vie, elle a laissé tomber évidemment sa mondanité, sa superficialité qu'elle avait un petit peu, et elle est devenue sainte Thérèse d'Avila. Faisons la même chose, mes chers frères. Nous aussi essayons maintenant de racheter le temps. Et il faut racheter le temps dans les domaines où nous avons gaspillé le temps. Quand je dis racheter le temps passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans le passé j'ai surtout gaspillé mon temps en péchant contre telle ou telle vertu, eh bien c'est surtout sur cette vertu-là que je vais devoir travailler ici-bas, tant que je suis dans l'église militante, pour rattraper ces péchés. Si j'ai péché contre une autre vertu, ben je vais devoir travailler sur cette vertu-là, justement pour rattraper en quelque sorte le temps passé qui a mal été utilisé. Si par exemple dans le passé j'ai beaucoup péché contre la charité, par exemple, mais c'est précisément sur cette vertu-là que je vais devoir travailler. Si au contraire j'ai beaucoup péché par mon manque de foi, par ma superficialité dans ma foi catholique, eh bien je vais rattraper ça en étudiant sérieusement mon catéchisme. Et pour bien connaître la foi catholique. Si dans le passé, j'ai passé beaucoup de temps sans me confesser, et sans utiliser les sacrements de la confession, sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie, ben je vais rattraper cela, justement, en me confessant bien régulièrement et en communiant le plus souvent possible d'ici ma mort pour rattraper les bêtises du passé. N'oublions pas que, mes bien chers frères, que tous les chrétiens, nous avons, pour passer justement sans trop de difficultés, cette barrière qui va séparer l'Église militante de l'Église triomphante, en passant encore une fois souvent par l'Église souffrante, eh bien, nous avons à utiliser trois choses. Pas simplement ce que je viens d'expliquer auparavant, le temps, la liberté et les grâces du bon Dieu, mais aussi trois autres choses que nous devons, un deuxième triptyque que nous devons expliquer maintenant, qui est connu. Il nous faut à la fois, pour ne rattraper le temps perdu mal utilisé, il nous faut nous former dans la foi catholique, dans la doctrine catholique, il nous faut nous sanctifier et il faut accepter d'être guidé. Ce sont les trois fonction essentielle de toutes les âmes qui ont charge d'autres âmes. Les parents, par exemple, le père de famille catholique, la mère de famille catholique, qui a une fonction, les deux, le père et la maman, ont tous les deux une fonction par rapport à leurs enfants de diriger leur enfant, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de gouvernement, de sanctifier leur enfant, pouvoir de ministère, et de former doctrinalement son enfant, pouvoir de magistère. Pourquoi ? Parce que le bon Dieu, encore une fois, ne nous a pas donné notre intelligence et notre volonté pour que nous fassions ce que nous voulons avec cette intelligence et cette volonté. N'oublions pas, je l'ai déjà souvent expliqué, que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Et donc, nous avons le devoir de former l'intelligence des gens, des âmes dont nous avons la charge, pour qu'ils puissent utiliser correctement leur intelligence et découvrir le vrai. Il faut, nous avons le devoir, si nous avons charge d'âme, de former les âmes dont nous avons la charge dans l'usage de leur volonté. Et nous avons le devoir grave de les maintenir dans le bon chemin, de les guider dans le bon chemin quand ils commencent à vouloir errer à droite ou à gauche dans des chemins interdits. Et ce n'est pas simplement la responsabilité des parents, c'est aussi bien sûr la responsabilité des prêtres. Les prêtres aussi ont ce triple devoir par rapport à leurs fidèles, aux gens dont ils ont la charge. Magistère, ministère, gouvernement, magistère pour les former, et donc pour pouvoir former les autres, il faut peut-être se former soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc le prêtre et les parents ont le devoir grave de se former eux-mêmes, d'utiliser correctement leur propre intelligence pour pouvoir aider les intelligences de ceux dont ils ont la charge à se dérouler normalement, à trouver le chemin qui mène au vrai, puis après utiliser leur volonté pour atteindre ce vrai. D'où la nécessité, pour racheter le temps perdu qui a été gaspillé parce que les jours étaient mauvais. Comme dit saint Paul, eh bien, il nous faut d'abord utiliser le magistère, se former. Reprenez votre catéchisme, bien chers frères. Ayez le catéchisme du Concile de Trente à la maison, étudiez-le, ou le catéchisme de saint Pédis. Aussi un autre très bon catéchisme, c'est le catéchisme de persévérance de Mgr Gaume, au moins son abrégé en un volume, ou le catéchisme complet de Mgr Gaume en 8 volumes, je crois. Ça, c'est vraiment quelque chose à utiliser. Vous avez aussi sur le site internet dont je m'occupe, Dame Marie, donc un catéchisme complet en 110 cours audio. Bon, c'est du gros travail, mais pour ceux qui connaissent mal leur catéchisme, allez sur le site, je vous en prie, et étudiez votre catéchisme pour pouvoir former votre intelligence, former votre volonté et vous maintenir le cap dans la bonne direction. Je mets aussi, depuis déjà un certain temps, une fois par semaine, un cours entre 1 heure et 1 heure et quart, sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est encore un bon moyen de formation. Pour ceux qui connaissent déjà bien leur catéchisme, étudiez saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, le plus grand docteur de théologie de l'histoire de l'Église. Eh bien, étudiez-le. Donc, utilisez ce cours que je mets, il y a déjà une cinquantaine de cours déjà que j'ai mis. J'ai déjà expliqué toute la première partie, la prima pars, la première partie, la deuxième partie que je suis en train de terminer, prima secundae. Donc étudiez votre foi, étudiez la doctrine de l'Église pour pouvoir l'aimer. Et si vous aimez la doctrine de l'Église, si vous aimez votre catéchisme, il vous sera beaucoup plus facile après de le transmettre à vos enfants. Il est pratiquement impossible de transmettre à ses enfants quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose qu'on n'aime pas. Donc il nous faut aimer notre catéchisme, il nous faut aimer la doctrine de l'Église. La deuxième responsabilité, le deuxième devoir d'État, c'est de se sanctifier. C'est le ministère. Donc on se sanctifie peut-être par une bonne confession générale. C'est tout à fait toujours possible. Tout avec l'arrivée de la fin de l'année liturgique, début du mois de décembre, c'est déjà le début de l'Avent, l'année liturgique qui suit. Et donc peut-être utiliser ce mois d'octobre ou ce mois de novembre qui arrive, eh bien justement pour se préparer, pour une bonne confession générale, pour bien nettoyer notre âme, c'est possible. Et enfin, devoir de gouvernement, devoir de guider les âmes dont on a la charge pour qu'elles restent dans le bon chemin, dans les bons pâturages, qu'elles n'aillent pas à manger les herbes empoisonnées qui peuvent être à droite ou à gauche. Donc faisons un petit peu notre examen de conscience, mes bien chers frères. Est-ce que d'abord j'ai perdu du temps dans le passé? Deuxièmement, est-ce que je rattrape le temps perdu dans le passé? Est-ce que mes enfants ont perdu du temps dans le temps passé? Est-ce que je les aide à rattraper ce temps passé? Est-ce que je suis bien décidé pour moi et pour ceux dont j'ai la charge, dans le temps futur, de mieux utiliser mon intelligence et ma volonté afin de me garder mon âme vers le bon cap, le ciel? C'est là où le bon Dieu nous attend. En demandant, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses, à les mettre en pratique. C'est la très sainte Vierge, c'est elle et qui nous aide justement à nous convertir. C'est elle qui nous aide à changer. Le bon Dieu change les gens. On peut être mourant et puis le bon Dieu nous rend la vie spirituelle. Et on le voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler, de saint Jean, donc cet officier royal qui avait un fils qui était mourant, et que ce que lui dit notre Seigneur Jésus-Christ: va, ton fils vit. Et il crut lui et toute sa maison, parce qu'à l'heure précise où notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit ça, cette heure précise, son fils a été guéri. Alors guérissons notre âme, mes bien chers frères. Demandons au bon Dieu, le grand médecin de notre âme, demandons à l'infirmière de notre âme, la très sainte Vierge Marie, de nous aider à changer ce qu'il faut changer avant qu'il ne soit trop tard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.